Souvenir sur l'affaire, chapitre 9. Dans l'intervalle, on avait continué de se battre, bien entendu, et l'on continua longtemps encore. Mais ce n'était plus qu'une bataille politique. Du côté de Réfusard, on ne luttait plus pour la réparation d'une erreur judiciaire ou pour le salut d'un homme. Les révolutionnaires s'efforçaient de généraliser les résultats acquis, de prolonger en larges ondes la secousse. Nous comptions bien transformer la coalition révisionniste en une armée permanente au service du droit humain et de la justice. De l'iniquité subie par un individu, nous tâchions, comme l'avait fait Jaurès dès le premier jour, de remonter à l'iniquité sociale. Nous retournions, contre les institutions militaires, les deux sentences des conseils de guerre, l'une fausse et illégale, l'autre contradictoire et absurde, les faux du deuxième bureau, l'opposition âprement maintenue entre l'honneur professionnel et l'honneur tout court. Du côté de la résistance, les antisémites, les anciens boulangistes, la droite monarchiste et cléricale, tentaient l'opération inverse et symétrique. Ils s'appliquaient à discipliner les réflexes confus mais simples de l'instinct national, à les diriger vers une réaction nationaliste, nous dirions aujourd'hui vers une réaction fasciste. Les camelots du roi faisaient leurs premières armes. La Ligue de la patrie française s'était organisée à peu près sur le même mode que les ligues paramilitaires d'à présent. Les progrès accélérés de cette propagande avaient jeté l'alarme dans la masse du Parti républicain. Après le coup de main de Reuilly et surtout après la formation du cabinet Waldeck-Millerand-Galifet, la défense républicaine s'était ajoutée au dreyfusisme et, peu à peu, s'y était substitué. Autant de Combes et de sa contre-offensive, l'évolution était apparue encore plus nettement. Le Parlement et le pays s'étaient partagés en deux camps bien tranchés que séparait un fossé profond. La passion publique était violente, mais on ne se battait plus pour ou contre Dreyfus, pour ou contre la révision. On se battait pour ou contre la République, pour ou contre le militarisme, pour ou contre la laïcité de l'État. En même temps qu'avait changé l'objet et l'enjeu du combat, bien des échanges s'étaient produits entre les combattants. Le camp républicain avait récupéré des adversaires de la révision, des indifférents, des partisans tièdes ou lâches. En revanche, beaucoup de Dreyfusards de la première heure avaient regagné le camp de la réaction comme leur sol naturel. Pourquoi compterais-je ce long conflit politique qui, d'ailleurs, attend encore son historien? Pourquoi le compterais-je plutôt qu'un autre, alors que maintenant j'en ai tant vu? En écrivant ces souvenirs, je n'ai pas nourri d'autre dessein que d'évoquer le cas humain. Celui qui était si beau, celui qui pouvait toucher indistinctement tous les hommes. J'ai cédé surtout à l'envie de restituer, de communiquer, avant qu'il fût devenu tout à fait inintelligible, un état d'esprit et de passion qui fut le mien, qui fut celui des quelques générations qui ont encadré la mienne. Restant l'un des derniers témoins, j'ai voulu verser mon témoignage. Mais, après le suicide du colonel Henri et l'ouverture de la révision, cet état extraordinaire n'a plus de support, plus d'aliments, et par conséquent, ma déposition perd son prix. La phase unique a cessé. C'est la vie habituelle qui recommence. L'affaire que je viens d'évoquer ainsi, c'est celle qui a été gagnée, franchement et complètement gagné, puisque Dreyfus a pu servir pendant la guerre avec ses galons d'officier. puisqu'il vient de mourir, vieux et tranquille, entre les siens. Puisqu'il n'existe plus au monde, dans aucun pays, un seul être pensant qui puisse concevoir un doute sur son innocence. Puisque l'histoire, qui retiendra son nom et sa légendaire aventure, a déjà rendu d'avance son jugement. L'autre affaire, ou plutôt cette séquelle d'affaires qui se développa en bataille politique, ne devait laisser en revanche qu'un résultat précaire et incertain. La coalition post-Dreyfusarde prolongea quelques années durant une apparente victoire. Combes gouverna impérieusement une majorité et, à travers sa majorité, le pays. Jaurès parut régner tant que Combes gouverna. Mais, dès 1906, Clémenceau rompait avec Jaurès. Sur les ruines de la coalition post-Dreyfusarde, il érigeait un premier bloc national fortifié et armé contre le socialisme. Briand survenait ensuite. Il désagrégeait le bloc des gauches comme le bloc national. Il aplanissait, il apaisait. 10 ou 12 ans après le suicide du Mont-Valérien et le procès de Rennes, la vie parlementaire avait recouvré presque exactement son ancienne figure. Les formations de l'affaire étaient décomposées. Sa puissance d'exaltation et de renouvellement était épuisée. C'étaient les mêmes rivalités de personnes, les mêmes oppositions ou combinaisons de groupes à contours indécis, les mêmes discussions sans principe. Le parti radical ne devait se reconstituer qu'à la veille de la guerre et sous d'autres influences. Seul, le parti socialiste, grâce à la prescience géniale de Jaurès, avait gagné son unité et accru sa force. Les réactionnaires, héritiers du parti de la résistance, avaient subi la poigne de Combes après le mépris arrogant de Waldeck, la loi de séparation après la loi sur les associations. La constitution républicaine et les dogmes républicains défiaient désormais leurs attaques. Mais leur défaite n'était ni plus durable ni plus substantielle que la victoire du camp adverse. Leur force réelle n'était pas détruite, elle était à peine altérée. On s'en aperçut à la veille de la guerre. On s'en aperçut encore plus clairement à son lendemain. L'autre affaire n'avait donc été gagnée ni perdue par personne. Nous n'avions pas réussi la rénovation révolutionnaire. Les chefs de la résistance n'avaient pas détruit la République, ne l'avaient pas asservie à la tradition. La crise avait eu beau parcourir la surface de violents et longs remous, elle n'avait pas ébranlé le pays dans ses profondeurs. Une fois le cyclone passé, la France se retrouvait à peu près identique à elle-même. Étrange spectacle qui prêterait à bien des réflexions amères, qui déçoit, qui pourrait presque décourager de l'action. Quoi ? Des années durant, une passion sans exemple avait possédé, bouleversé la vie personnelle et la vie commune. On s'était senti différent. Tout avait semblé différent autour de soi. Et voilà que, sitôt terminée la période aiguë, sitôt la température tombée, la société, le corps politique, les groupes, les individus, se retrouvaient pareils à eux-mêmes, tels que s'il ne s'était rien passé. Ceux que ces tristes propos pourraient étonner n'ont qu'à rappeler en eux des souvenirs moins lointains, ceux de la guerre et de l'après-guerre. Pendant la guerre aussi, chacun s'était senti autre et avait cru percevoir autour de lui d'autres hommes, un autre univers. Chacun s'était dit également « Quand l'épreuve sera surmontée, je vivrai dans un pays neuf, dans un monde neuf, avec des hommes qu'uniront à moi des rapports nouveaux. » Chacun concevant d'ailleurs à sa manière le renouvellement du pays, du monde, des rapports humains. En fin de compte, la surface seule avait été brassée par la tourmente. Les lourdes profondeurs restaient immobiles. À mesure que tombait l'agitation des vagues, le même océan reparaissait sous le même ciel. On voyait se reformer le même monde. Avant ou après l'affaire, avant ou après la guerre, qu'y avait-il de foncièrement transformé en France? Est-il vrai, comme on l'entend répéter souvent, que la vie collective en France obéisse à une loi particulière de stabilité? Il se peut. Les changements révolutionnaires se sont succédés en France, depuis un siècle et demi, à des intervalles bien courts, mais on pourrait prétendre avec assez de raison que, si fréquents qu'ils aient été, ils ne modifiaient précisément que des apparences. Il est vrai que, dans les 100 ans qui ont suivi la Révolution française, la vraie, notre pays n'a guère subi, en réalité, que les oscillations régulières du temps, qu'il n'y a pas tant de différence entre l'Empire napoléonien et la Restauration, entre la Restauration et la monarchie censitaire, entre la monarchie censitaire et l'Empire libéral, entre l'Empire libéral et la République conservatrice. Bien des fois, chez nous, le pouvoir a changé de main en pure perte. Et il se peut que le scepticisme politique des masses soit, pour une part, venu de là. Mais comment la loi de stabilité serait-elle particulière à la France quand les phénomènes qu'elle prétend exprimer ne le sont pas? Les grandes crises politiques n'ont pas plus transformé l'Angleterre que la France. En ce moment même, ne sentons-nous pas, de jour en jour, la pire des obsessions peser plus lourdement sur nous? Celle de revivre dans l'Europe de 1914, de voir les forces politiques se réassembler sous les mêmes signes et selon les mêmes systèmes. Alors, faut-il chercher l'explication dans la philosophie matérialiste de l'histoire? Si, après l'affaire ou la guerre, la société est silencieusement revenue sur elle-même, est-ce parce que les classes sociales n'avaient pas été brouillées, parce que les rapports sociaux n'avaient pas été altérés, parce que rien n'avait mordu sur la condition humaine, sur le métier, sur le gain, sur la sécurité de la vie, sur la manière de se loger, de se nourrir, de se vêtir, sur la façon dont le bien s'acquiert, s'exploite et se transmet. C'est jusque-là qu'il faut atteindre, comme l'avait fait la Révolution de 89. Alors, les épaisseurs immobiles sont secouées. Alors, remontent du fond les grandes ondes, les grands déplacements d'eau qui bouleversent durablement la surface. Est-ce pour cela que des crises historiques comme l'affaire et la guerre auront laissé moins de traces sur le monde qu'une simple crise de surproduction industrielle, chronique par sa nature, mais prolongée au-delà de la durée normale? Je livre ces réflexions, ou plutôt ces questions, au lecteur, parce qu'elles naissent naturellement de mon sujet, mais je ne veux pas m'y attarder. Je me défends même de les poursuivre. Elles me ramèneraient à la vie présente, dont m'avait éloigné pour quelques heures le rappel du passé, l'évocation de la jeunesse, du temps retrouvé, des amis perdus. Avant de tourner le dernier feuillet, je me donne encore un moment de retraite. C'est cette ombre protectrice et bienfaisante que je veux recomposer, épaissir à nouveau autour de moi.